troisième journée de retraite, demandez à l'Esprit Saint de vous prendre de plus en plus pour vous conduire au désert proche de Marie pour adorer et aimer. C'est toujours par l'adoration on s'approche de la manière la plus vraie du cœur du Christ et du Père. Et l'adoration, nous pouvons toujours faire de vrais actes d'adoration. Adorer avec Jésus, puisqu'il est venu nous apprendre cette adoration en esprit et en vérité. Notre fragilité, notre petitesse, reconnaître toute notre vulnérabilité en face de Dieu et lui offrir, reconnaître qu'il est celui qui a créé notre âme, qui l'a créé maintenant. C'est se mettre sous ce regard de la sagesse créatrice de Dieu, la sagesse créatrice du Père, et sous le regard de la sagesse de Jésus à la croix, qui lui adore pour toute l'humanité. Il nous invite à adorer avec lui. Par l'adoration, nous devenons le désert de Dieu. C'est-à-dire, nous écartons tout ce qui pourrait nous empêcher d'être dans cette relation directe avec Dieu. Par l'adoration, nous entrons. L'aide de l'Esprit Saint pour nous conduire très proche du regard de Dieu, du regard du Christ sur nous. Vous demandez très fort à la Vierge Marie. Si nous regardons la petite Thérèse de l'Enfant Jésus et qu'elle nous est donnée, sont toutes spéciales, Thérèse, l'Enfant Jésus et la petite Marthe, comme des frères aînés, des sœurs aînées, qui nous conduisent. Et plus nous touchons notre misère, notre faiblesse, plus nous touchons combien nous sommes fragiles, plus nous avons besoin de secours. L'Esprit Saint de nous emporter. On voit de plus en plus, quand on avance un peu dans ce que la petite Thérèse nous apporte, cet appel constant de l'amour, la vocation, c'est d'aimer, c'est l'amour. On peut dire que c'est le mot d'ordre de Thérèse. Ce qui reprend très nettement ce que Jésus dit. Aimer Dieu, aimer le prochain, tout est là. Alors, il y a cette modalité particulière chez la petite Thérèse. C'est le point de vue de la souffrance. Constamment voulait réunir tous les lieux où de fait elle meurt, vient la souffrance et la compagne de sa vie. Ce serait très intéressant, parce que ça nous aiderait sûrement à mieux comprendre combien elle a compris très vite mystère de la sagesse de la croix. Et je pense ce lieu qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est une lettre écrite par le 26 avril 89 à ce lieu. Ne négligeons rien de ce qui peut faire plaisir à Jésus. Ce souci de l'amour, faire plaisir, a laissons-nous dorer par le soleil de son amour. Ce soleil est brûlant, consumons-nous d'amour. Saint François de Sales dit, quand le feu de l'amour est dans un cœur, tous les meubles volent par les fenêtres. Oh, ne laissons rien, rien dans notre cœur. Ne croyons pas pouvoir aimer sans souffrir. C'est très net. C'est l'amour qui donne le sens à notre vie. Et dans l'amour, c'est ce mode très particulier de faire plaisir. Ça fait plaisir à Jésus d'être aimé. Et d'être aimé d'une façon plénière. Le souci principal, faire plaisir à Jésus. Et pour lui faire plaisir, il faut comprendre qu'on ne peut pas aimer vraiment sans souffrir. Ne croyons pas pouvoir aimer sans souffrir. Sans souffrir beaucoup. Notre pauvre nature est là. Elle n'y est pas pour rien. C'est notre richesse, notre gagne-pain. Elle est si précieuse que Jésus est venu sur la terre exprès pour la posséder. Souffrons avec amertume, sans courage. Jésus a souffert avec tristesse. Sans tristesse, est-ce que l'âme souffrirait? Et nous voudrions souffrir généreusement, grandement. Cette manière d'aimer qui assume la souffrance et acceptée par le fait même que quand on souffre, il y a quelque chose de lourd à porter. Souffrons avec amertume, sans courage. On voit très bien ce que veut dire. Oui, si je sépare cette phrase du contexte, ça irait très loin comme spiritualité. Hein. La spiritualité rampante, c'est pas ça du tout. Elle vient de dire que quand l'amour est là, comme dit Saint François de Sales, le feu de l'amour est dans un cœur, tous les meubles volent par les fenêtres. Donc il y a cette liberté totale que dans l'amour. Et l'amour sur la terre est accompagné de souffrance. Et la souffrance, c'est toujours le rapporter. Et celui qui dit que la souffrance, c'est léger. Je crois que c'est pas tout à fait juste. C'est pas vrai. C'est pas la vraie souffrance. La vraie souffrance nous blesse toujours. Et si l'amour de Dieu n'était pas là, on serait rampant. On s'arrêterait. On serait désespéré. C'est comme celui qui prétend que la mort doit être glorieuse. Non. La mort est une belle et elle est source de toutes les souffrances. Partie de la souffrance. Sans tristesse, est-ce que l'âme souffrirait? Et nous voudrions souffrir généreusement, grandement. C'est dit, quelle illusion. Nous voudrions ne jamais tomber. Qu'importe mon Jésus, chaque instant. Je vois par là ma faiblesse, et c'est pour moi un grand cadeau. Ça, c'est tellement aussi Marthe. Je l'ai vue constamment dans cette perspective-là. La petite Marthe montrait que s'il y avait des difficultés, des limites, et qu'on tombait, Jésus permettait que tout ça nous mène à l'humilité, à la petitesse. Qu'importe, mon Jésus, si je tombe à chaque instant, je vois par là ma faiblesse, et c'est pour moi un grand gain. Vous voyez par là ce que je puis faire, et maintenant, vous serez plus tentés de me porter en vos bras. Si vous ne le faites pas, c'est que cela vous plaît de me voir par terre. Alors, je ne vais pas m'inquiéter, mais toujours je tendrai vers vous les bras, suppliant et plein d'amour. Je ne puis croire que vous m'abandonniez. Les saints, lorsqu'ils étaient aux pieds de notre Seigneur, c'est alors qu'ils rencontraient leur croix. Ô Céline, écoute mon âme, si tu connaissais ma misère, ou si tu savais, la sainteté ne consiste pas à dire de belles choses, elle ne consiste pas même à les penser, à les sentir, elle consiste à souffrir de tout. La sainteté, il faut la conquérir à la pointe de l'épée, il faut souffrir, il faut agoniser. Un jour viendra où les ombres disparaîtront. Alors, il ne restera plus que la joie, ivresse. Profitons de notre unique moment de souffrance, la terre. Profitons de notre unique moment de souffrance. Nous voyons que chaque instant, c'est un trésor. Un seul acte d'amour te fera mieux connaître Jésus. Ça nous rapprochera de lui pendant toute l'éternité. Je vous ai dit ce passage, l'un des candidats nôtres, et ce que je vous disais hier même. De temps en temps, on a presque l'impression que la souffrance finalise, alors que c'est pas vrai. La souffrance ne finalise jamais. Et quelquefois, dans l'expression, on a l'impression qu'elle fait passer presque la souffrance avant l'amour. L'amour sans la souffrance, ça ne pourrait pas aller. Alors, essayons de comprendre ça dans la lumière d'Évangile, avec tout ce que ça implique de précision. C'est important pour nous de bien voir cela dans la lumière de la sagesse de la croix. Parce que c'est sûrement un des secrets de la petite Thérèse. Et c'est cela qui va nous conduire à regarder ce qu'on appelle la petite voix de Thérèse. Saint Thomas se pose la question. Pourquoi Jésus est notre sauveur à la croix? C'est au fond la grande question de saint Thomas dans sa théologie sur le Christ. Toute sa théologie sur le Christ regarde le sauveur. Jésus est venu pour nous sauver. Aurait pu nous sauver par sa vie cachée. De Bethléem à Nazareth, de Nazareth jusqu'à sa vie publique. Il aurait pu nous sauver dans son obéissance à l'égard de Marie. Il aurait pu être notre sauveur quand Jésus, dans le silence, miséricorde. Quand il guérit les infirmes, dans la piscine de Bethsaida, puisque c'est un des moments les plus extraordinaires où Jésus sauve ce pauvre homme qui depuis 38 ans est là, infirme, voyant passer tous les autres devant. Une communauté très particulière, la communauté de Bethsaida. On est là avec un seul désir, c'est d'en partir le plus vite possible. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Et Jésus va auprès de celui qui souffre le plus, le doyen de cette communauté. Il n'en peut rien. Et le mal le plus terrible dans cette communauté, c'est d'être infirme. Puisque tous ceux qui se précipitaient dans la piscine au moment où l'ange agitait l'eau étaient sauvés. Et c'était le premier. Et Jésus va auprès de lui et le guérit. À travers ces gestes de miséricorde de Jésus, Jésus aurait pu sauver tous les hommes. Tous les hommes étant des infirmes, comme cet homme à la piscine de Bethsaida. Jésus aurait pu nous sauver par son enseignement. Quand Jésus enseigne d'une façon magistrale et merveilleuse, la grande théologie du pain de vie, dans Saint Jean, chapitre 6, tout le grand mystère de l'Eucharistie, Jésus aurait pu nous sauver à travers toutes ces rencontres que nous voyons à l'égard de l'humanité. Et le Père veut qu'il nous sauve par le sacrifice de la croix. Il aurait pu très bien nous sauver autrement. Donc il y a là un choix divin, de sagesse divine pour nous. C'est sûr que toute la vie du Christ ordonné à la croix qui est son œuvre. C'est l'œuvre de Jésus. C'est là où il accomplit pleinement et totalement sa mission. Il est venu pour cela, pour glorifier le Père et nous sauver. Et ceci s'est exprimé d'une manière extrêmement nette dans le chapitre 17 de Saint Jean, qu'il faut relire souvent, dans la grande prière du Fils bien-aimé. C'est pour glorifier le Père et nous sauver. C'est le mystère de la croix qui unit ce regard contemplatif et l'œuvre par excellence apostolique, sauver. Et c'est la volonté du Père que ce soit à travers le mystère des souffrances de la croix, souffrance de l'agonie, qui est la tristesse. Il n'y a pas de vraie souffrance sans tristesse. Tristesse intérieure de l'âme. Tristesse telle qu'elle est capable que Jésus meurt à cause de cette tristesse. Une tristesse qui prend toute l'âme du Christ. Je suis triste jusqu'à en mourir. Tristesse du poids du péché, de l'horreur du péché, qui fait que l'homme se détourne de Dieu et se replie sur lui. Péché d'orgueil. D'orgueil personnel, d'orgueil collectif, symbolisé par la tour de Babel. Le mystère de la croix commence par l'agonie. Et le mystère de la croix se poursuit jusqu'au Golgotha, en passant par la flagellation, par le portement de croix, par toutes les souffrances que Jésus connaît, de la
crucifixion. Alors, on se pose la question, puisque c'est là et là seul où je puis comprendre comment, dans sa sagesse, Dieu a voulu unir l'amour dans ce qu'il a de plus grand, de plus fort, de plus pur, et la tristesse et la souffrance. Et c'est à cause de la sagesse de la croix que la petite Thérèse unit tout le temps amour et souffrance. À sa manière extraordinairement simple et de répétition constante. Pas du tout à la manière dont Thomas d'Aquin, théologien, le fait. Elle le fait d'une façon extrêmement pratique, simple. Vous voyez cette lettre à Céline, jour d'anniversaire, je rappelle tout de suite cela. On doit se poser la question, pourquoi le Père qui envoie son Fils pour le glorifier et nous sauver fait ce lien entre l'amour et la souffrance, entre l'amour et la souffrance extrême, ultime, une souffrance qui conduit à la mort, une souffrance qui implique la mort et une tristesse qui implique la mort. Pourquoi cela? C'était tellement plus normal d'unir l'amour à la joie, à la réussite. Jésus aurait été capable de réussir. Ça aurait pu être l'entrée triomphale à Jérusalem, qui soit le salut. Ça aurait pu être cette procession étonnante que nous montre Saint Jean au chapitre 6, quand Jésus est suivi de cette foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça aurait pu être ça, le salut. Tout cela est ordonné au salut. Ce n'est pas indifférent au salut. Et ce n'est pas cela qui est l'heure de Jésus, le moment pour lequel il est venu. Tout est réalisé dans l'obéissance au Père. C'est un acte d'amour qui, à travers le mystère de la tristesse, de l'agonie, des souffrances de la croix, l'offrande de sa vie terrestre, tout cela se réalise dans l'obéissance. Là encore, vous voyez, c'est assez étonnant de voir que c'est l'amour lié à l'obéissance qui nous sauve. Et c'est peut-être cela qui est la clé pour nous. C'est parce que il veut nous manifester son amour pour le Père. Et c'est en manifestant son amour pour le Père qu'il le glorifie. Cette manifestation proclame son amour pour le Père. Et pour manifester son amour pour le Père, il faut que cet amour se réalise dans une obéissance qui va jusqu'au bout et qui implique l'offrande de sa vie. C'est une obéissance radicale, pas seulement un acte. Vous voyez, tous les autres moments de sa vie sont faits dans l'obéissance au Père. un acte de choix absolument libre de la part du Père. C'est ça qui est si impressionnant. C'est pour que l'amour soit plus manifesté, que ça, pour que l'amour soit parfaitement vécu, parfaitement incarné, qu'il se concrétise à travers son humanité sainte, sa nature humaine. Il se manifeste à nous. Une obéissance qui implique l'offrande de toute sa vie. Chaque fois qu'on obéit, on offre quelque chose de notre vie. On offre du temps. On offre des capacités. C'est le propre de l'obéissance. Par l'obéissance, on coopère avec celui qui a autorité. Et le démon est habile. Le démon est très habile. Qu'est-ce qu'il a fait durant ce siècle? Il a attaqué d'une façon très particulière l'autorité paternelle. Et de façon très habile en montrant tous les défauts de cette autorité paternelle qui se réalise constamment d'une manière qui n'est plus un vrai service pour l'autre, mais qui est un pouvoir. Il y a eu cette confusion entre autorité et pouvoir, qui a fait que l'autorité paternelle est devenue odieuse. On l'a rejetée. Et par là, on a rejeté l'obéissance. Comme c'est difficile pour nous aujourd'hui d'obéir, il faut bien le reconnaître. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour nous. Tellement on a un sens de la liberté d'autonomie. Et Jésus nous montre que la volonté du Père, c'est que cet acte d'obéissance prenne possession de tout lui-même. Une obéissance vraiment radicale et substantielle. Qui exprime son amour. Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez, vous respecterez mon autorité. Et vous réaliserez mon commandement. Cette coopération étonnante de Jésus avec le Père à la croix. Une obéissance de fils bien-aimé. Une obéissance tout aimante. Et pour que cette obéissance aille jusqu'au bout, qu'elle soit plénière, elle ne peut jamais être adéquate à l'amour. Il ne faut jamais oublier. L'amour est toujours source d'obéissance. Et chaque fois que l'obéissance devient terriblement difficile, c'est parce qu'on n'aime plus assez. Parce que pour l'intelligence humaine, c'est révoltant d'obéir quand on arrive à un certain âge où on est capable de se diriger. Notre prudence, ce qu'on a acquis comme expérience, quand on se connaît un peu, c'est révoltant. Quelqu'un qui nous commande quelque chose et qui nous connaît beaucoup moins bien que nous-mêmes, c'est stupide. Donc on comprend très bien ça. C'est le lieu de la révolte, dans ce qu'il y a de plus fort. Jésus obéit en fils bien-aimé. Et son obéissance, à cause de cet amour, va aller jusqu'au bout. Mais comprenons bien que l'amour porte tout le temps l'obéissance. C'est pas l'obéissance qui porte l'amour, hein. L'obéissance concrétise d'une manière efficace l'amour. L'amour, dans l'obéissance, réalise toute son efficacité et toute sa force. Et Jésus à la croix et à l'agonie nous fait comprendre combien son amour pour le Père est l'absolu. C'est tout pour lui.
grâce à cet amour, il peut offrir toute son âme qui porte l'iniquité du monde. Et grâce à cet amour, il peut porter la flagellation, la condamnation, la mort. Comme un esclave qui n'a plus aucun droit, et ne peut mourir sur la croix, avec toutes les souffrances de la croix. Et le cri de soif nous montre comment cette œuvre si grande de la croix, la plus grande œuvre qui a existé sur le monde, dans le monde, dans notre monde, sur notre terre, le mystère de la croix s'est réalisé chez nous, au milieu de nous. Et c'est l'acte le plus grand, c'est l'œuvre par excellence, c'est l'œuvre de Dieu. Et le cri de soif nous fait comprendre que cette œuvre, si grande qu'elle soit, n'est pas adéquate à l'amour. Et que l'amour va toujours plus loin, qu'on ne peut pas ramener l'amour au résultat, à l'œuvre, à l'efficacité. L'amour va toujours plus loin. C'est très grand, ça. Et ça fait partie de cette lucidité contemplative du Christ crucifié. Lucidité au milieu de la souffrance, au milieu de la fin de toute sa vie. Il nous montre que au-delà du sacrifice de tous les mêmes, il y a cet amour pour le Père qui dépasse tout. Et ceci nous fait comprendre combien tout le mystère de la croix et tout le mystère de l'agonie est porté dans l'amour. Alors, nous commençons à comprendre pourquoi le salut s'est réalisé à travers le mystère de la croix. Nous commençons à deviner. Nous le comprendrons pleinement au ciel, dans la vision béatifique. Ici, sur la terre, ça reste toujours un mystère. Et là, on doit tout faire pour aller le plus loin possible dans la contemplation de ce mystère, pour que nous puissions le vivre aussi. C'est la sagesse de la croix. Et c'est le message de la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Son acte d'offrande est pour nous préparer à cela et nous faire comprendre que tout doit s'achever là. Et tout prend sa signification là. On voit comment l'amour porte la souffrance, bien pourquoi pas la joie. Parce que c'est sûr que l'amour, par lui-même, s'épanouit en joie. Si Jésus aime tellement notre nature humaine, il aurait dû manifester son amour suprême d'être sauveur par la joie. Vous voyez comme ça aurait été, j'allais dire, comme naturel à nous. Montrer que Jésus nous donne la joie plénière, totale, de cette terre. La réussite plénière de l'amour, c'est l'épanouissement de tout notre être et la joie. Puisque la joie, c'est toujours l'épanouissement. Dès qu'il n'y a plus d'épanouissement, il y a tristesse. Il y a brisure. Une brisure qui devient quelquefois insupportable. C'est la croix. Sous le poids de la croix. Il y a un repliement sur soi, il n'y a plus cet aspect extatique de l'amour.
c'est la joie. C'est bien évident. Le terme n'est pas la tristesse. Le terme n'est pas la souffrance. C'est pour ça qu'elle ne finalise pas. C'est l'amour qui s'épanouit pleinement et totalement. Qui s'épanouit jusqu'au bout, dans la joie. C'est le mystère de la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Et c'est vrai, si la croix, la tristesse, la croix extérieurement est un échec, l'échec le plus terrible qui existait sur terre, Jésus, qui a eu 12 disciples, parmi les 12, il y a un traître. Celui qu'il a choisi pour être son successeur le renie. Et les autres s'enfuient. Il y en a qu'un sur 12. Et ça, Internet qui, tu crées 12 novices, il n'y en aurait qu'un de fidèle, on dirait pauvre permettre. Vraiment, c'est un imbécile. Il n'a rien compris. C'est un échec terrible à croire. Extérieurement. Et pour le démon, c'est sa grande victoire. Il en est persuadé que c'est sa grande victoire. Et la croix et la victoire de l'amour est cachée. Le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt pour porter beaucoup de fruits. Ah, on touche la fécondité de l'amour. C'est pas l'amour tout seul, c'est la fécondité de l'amour. Pour qu'il y ait cette fécondité d'amour, il faut passer par la croix. Ce passage difficile, pénible, que Jésus nous indique. C'est un passage. Et le terme, c'est la résurrection. Alors, on commence à mieux saisir. Pourquoi il y a cette alliance mystérieuse de l'amour avec la tristesse? La tristesse du péché, la tristesse du manque d'amour, la tristesse qu'il y a l'orgueil, c'est la tristesse de l'orgueil des hommes qui n'acceptent pas de passer par la croix. Qui n'acceptent pas d'aller jusqu'au bout des exigences de l'amour. Il faut passer par la croix pour qu'il y ait cette purification radicale de notre cœur, de notre volonté, de notre intelligence, pour que l'amour puisse alors s'emparer de tout. C'est vrai que la tristesse nous met dans un état de petitesse, dans un état de fragilité terrible, insupportable. On ne peut plus rien faire quand on souffre de trop. On est attiré quand on est triste. L'amour est victorieux de la tristesse et de la souffrance à la croix. Mais c'est une victoire cachée. On s'épanouira que dans l'au-delà. Dieu, le Père, réclame de nous un acte de foi qui va jusqu'au bout, selon les apparences. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger selon les apparences. Selon les apparences, la croix est un échec. Et quand nous vivons cet échec dans notre vie, c'est dur. Il faut une espérance toute divine et un très grand amour pour en sortir. Et pour ne pas rester anéanti par le poids de cette tristesse et cette douleur. Voyez la confiance extraordinaire que le Père donne cette sagesse de la croix, que le Père nous la donne, pour qu'il y ait cette taille si profonde que Jésus lui-même vit dans l'agonie à la croix, et nous faire comprendre l'exigence profonde de l'amour. Vous voyez, la joie ne pourrait pas réaliser cela. La joie n'est pas un passage. Vous savez bien, le danger de la joie, c'est qu'on s'y arrête. On veut dresser trois tentes, la tentation de s'y arrêter. Dès qu'on n'a jamais la tentation de s'arrêter, la souffrance et la tristesse, c'est un passage. Et on voudrait que ce soit le plus rapide possible. Et on sent très bien, la petite Thérèse en a grand envie, vite la mort, que ce soit terminé cette souffrance. C'est la tentation de suicide, elle l'a pas eue. Mais c'est la tentation de suicide quand l'amour n'est pas suffisant. Vite la mort pour que soit supprimée cette souffrance. Et on s'y précipite. C'est très rude. Cette alliance que Dieu a voulu, ça reste toujours un mystère. Pour notre intelligence humaine. Si l'Esprit Saint et si le Père nous avait demandé conseil, on ne l'aurait pas dit. Oh oui, sauver le monde par la croix, sauver le monde par l'agonie. On n'aurait pas dit ça du tout. On aurait dit sauver le monde à Cana. Transformation de l'eau en vin dans un climat de fête. C'est joyeux. Sauver le monde par l'enseignement, c'est grand. Sauver le monde par les actes de miséricorde auprès des malades. Il faut accepter d'être soi-même le malade. Et sur la table d'opération, chirurgicale, sur la croix, et laisser l'Esprit Saint, à ce moment-là, aller jusqu'au bout, le coup de lance au cœur, où Jésus est victime ultime d'amour. Je crois que Thérèse a saisi ça d'une manière inouïe pour nous, pour qu'à travers un enfant, les théologiens ont accepté l'enseignement de Jésus à 12 ans. Et quand Jésus a 30 ans, il n'accepte plus. L'humanité, aujourd'hui, elle a acquis une grande science. Et le Saint-Père nous dit que l'humanité adulte, ayant acquis cette grande science, il n'y a plus de place pour le Sauveur. Et c'est la grande tentation de l'Église d'aujourd'hui, des hommes, et qui sont même des élus qui sont dans l'Église. C'est la grande tentation de devoir se sauver par soi-même. Et de ne pas accepter le salut à la manière dont le Père l'a voulu, dans l'obéissance de la croix, l'obéissance de l'agonie. Puisque l'humanité d'aujourd'hui a beaucoup de peine d'écouter Jésus à 30 ans, Jésus nous donne une petite messagère de son amour, la petite Thérèse. Et Marthe, ce sont des petits qui transmettent la sagesse de la croix. La sagesse de la croix en face de la science d'aujourd'hui. De cette humanité arrivée à l'âge adulte ne peut se taire. Alors il y a les petits, cette petite Thérèse du fond de son Carmel qui nous dit son secret. Ajoutons que le mystère de vent s'éloigne, que se calise. Qu'est-ce que ça veut dire? Un langage symbolique. Le langage de l'apocalypse. Le calice de la souffrance. C'est-à-dire, Père, que ce calice s'éloigne. La modalité particulière dont tu veux sauver l'humanité. Et te glorifier. Et cette modalité, c'est que Marie est présente à la croix. C'est que Thérèse de l'enfant Jésus est présente à la croix. Une petite enfant qui souffre. Vous savez bien le scandale dont parle Camus. Quand c'est un être fragile qui souffre, un enfant qui souffre, quelqu'un de complètement désarmé. Et Thérèse est un enfant. Sa sœur constate à sa mort. Elle est comme quelqu'un qui a 12 ou 13 ans. Jésus, dans son agonie, demande au Père que le calice s'éloigne. Jésus accepte de mourir seul. Il supplie le Père d'être seul à souffrir. Il ne faut jamais oublier cela. Et en même temps, il remet tout au Père. Mais il l'a demandé. Parce qu'il nous connaît trop bien. Il sait combien nous sommes fragiles et faibles. Combien c'est dur de souffrir. Combien c'est dur de mourir à nous-mêmes. Quasi inhumain. Jésus sait cela. Il supplie le Père d'être seul à souffrir. Il peut. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui est le sauveur. C'est pas Marie. Marie, c'est la surabondance. Et Jésus demande au Père que nous soyons seuls, qu'il soit seul à souffrir. Et le Père veut que Marie soit là, que Jean soit là, qu'il y ait cette icône de la très sainte Trinité à la croix. Jésus. Marie, Jean, c'est l'icône chrétienne de la très sainte Trinité. Jésus tient la place du Père, il est source de vie nouvelle. Marie est celle qui reçoit tout et qui donne tout. Et le fruit commun de Jésus et de Marie, c'est Jean, c'est nous, c'est l'Église. Le Père veut que Marie soit là. Pourquoi? Pour qu'elle soit plus unie à Jésus. Que tout le mystère de la croix, donc cette alliance de l'amour avec la tristesse du péché d'orgueil, cette alliance de l'amour avec la souffrance, que Marie puisse vivre ce même mystère, le mystère de la compassion. Et avec Marie, c'est Jean, puisque Marie est donnée comme mère, et donc elle donne tout son trésor à Jean, et à chacun d'entre nous. Et avec Marie, c'est toute l'Église, donc c'est nous tous. Faut jamais oublier que Jésus a prié le Père, que les souffrances que nous vivons maintenant, les tristesses que nous vivons maintenant, soient écartées. Parce que Jésus sait notre faiblesse. Il sait quand il y a un peu de joie que tout va bien, mais que dès qu'il y a un petit peu de brisure, des choses qui nous contrarient, il y a la terrible tentation du désespoir. Il y a la terrible tentation de se replier sur soi et de ne plus vivre du premier amour. Jésus le sait, c'est pour ça qu'il a prié à l'agonie. Et le Père veut aller jusqu'au bout. serai moins une avec Jésus. Parce qu'elle ne vivrait pas ce que Jésus a vécu. L'alliance de l'époux et de l'épouse qui est au cœur de toutes les alliances de l'Ancien Testament, du prophète Osée au Cantique des Cantiques, et qui est au cœur de la Nouvelle Alliance. Qui est la Nouvelle Alliance? Jésus est l'époux de l'Église. Marie à la croix est l'épouse de son cœur. Cette alliance de l'époux et de l'épouse ne se réaliserait pas si Marie n'était pas présente à la croix, si nous-mêmes, nous n'étions pas liés à la croix du Christ et à son agonie. On resterait des serviteurs, mais on ne serait pas des épouses. L'épouse vit tous les secrets de l'époux. L'épouse fait la même œuvre que l'époux. Autrement, elle ne serait pas épouse. Et Marie fait la même œuvre que le Christ dans sa foi, dans son espérance et son amour. Et c'est dans ce sens-là qu'elle complète et qu'elle achève tout le mystère de la croix. Et par Marie, c'est Jean. Et par Marie et Jean, c'est nous. Demandons à la petite Thérèse, qui a vécu cela avec une telle acuité et une telle profondeur, et surtout une telle simplicité, de nous aider à recevoir ce secret et à en vivre.